C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. C'est pas du vent, Anne-Cécile Brun.
Bonjour, apprendre à regarder autour de soi, à observer les paysages de notre quotidien, à écouter la parole des anciens qui les ont vus évoluer, c'est le principe même du concours Hip-Hop porté par RFI Planète Radio et l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement. Hip-Hop pour Petites Ombres Participatives incite des jeunes du monde entier à recueillir dans des capsules vidéo le témoignage des anciens sur leur perception de l'évolution de leur environnement. Ces témoignages sont ensuite mis en perspective par des scientifiques. Cette semaine, le premier lauréat du premier concours Hip-Hop est venu à Paris pour recevoir son prix ici au Café des Trois Arbres dans le 19e arrondissement de Paris. Cela valait bien une émission.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Max Ball.
Bonjour Anne-Cécile.
Hip-Hop, c'est votre idée, c'est votre bébé. Comment a commencé cette aventure ?
Cette aventure, elle naît de projets qu'on avait déjà mis en œuvre avec Planète Radio depuis de nombreuses années déjà, des projets liés à la protection environnementale.
Donc peut-être expliquer en quelques mots ce que c'est Planète Radio.
Exactement. Alors Planète Radio, c'est l'antenne de coopération du groupe France Média Monde. Donc on essaye d'apporter des modestes solutions et puis surtout d'écouter les populations locales pour mettre en œuvre et mettre en place des organes de communication. Alors ça peut être des radios, ça peut être des centres multimédia. On travaille aussi sur la sécurisation de l'énergie de ces petites radios. Voilà, donc on est des bricoleurs et des artisans de la radio.
Vous créez des radios qui marchent à l'huile de palme ou grâce à l'énergie des bœufs qui tournent quand même.
C'est ça, le bœuf qui tourne fut un grand succès de Planète Radio il y a quelques années de cela.
Et donc, donner justement la voix aux populations, à ceux qu'on n'entend pas, c'est cela qui vous a donné l'idée de faire hip-hop.
Exactement, c'est d'essayer d'intégrer dans la problématique de la protection environnementale et en général de ce qu'on appelle les changements globaux, pollution y compris, c'est d'intégrer une nouvelle composante un peu plus humaine. Ce que j'appelle moi le ressenti, c'est-à-dire des choses qui sont difficilement quantifiables et qui ne pèsent à mes yeux pas assez pour la gestion de la problématique. C'est-à-dire on parle beaucoup de chiffres, de pourcentages, de budget. Et puis bien souvent, on oublie qu'à quelques milliers de kilomètres, ou ça peut être très proche de chez nous d'ailleurs, il y a des gens qui vivent des situations complexes et qui ont peut-être des choses à partager avec le corps scientifique et peut-être aussi des réponses et des solutions à attendre de la part de ce corps-là.
Oui, parce qu'il y a ce ressenti. Parfois, il y a un décalage entre le ressenti, la vérité scientifique. Donc, c'était aussi ça, l'idée de hip-hop, c'était de vulgariser, de faire de la pédagogie.
Alors, il y a de ça. Il y a aussi une composante extrêmement importante à mes yeux, c'est le côté intergénérationnel. C'est-à-dire qu'on a des personnes un peu plus âgées qui ont vécu depuis quelques années ces changements, qui ont depuis de nombreuses années mis en œuvre des solutions, des petites idées pour pallier ça. Et donc, du coup, quelque part, je pense que c'est aussi une grosse part du patrimoine immatériel de l'humanité parce que la problématique avance de plus en plus rapidement. Je pense qu'on est tous confrontés. On voit maintenant la gravité de la situation et il me paraissait important qu'on prenne le temps de s'asseoir et d'écouter un petit peu ce que les anciens ont vécu. Et l'intergénérationnel, c'est aussi du rapprochement pour une amélioration des conditions de vie.
Bonjour Thierry Giesinger.
Bonjour.
Vous êtes le responsable des programmes environnement à la Fondation de France. Vous soutenez Hip-Hop depuis le départ. Qu'est-ce qui vous a motivé dans cette aventure ?
Alors, ce qui nous a motivé, c'est exactement tout ce que vient de raconter Max Ball. Tout le fond du projet correspondait vraiment de très près à notre appel à projet. Et de ce côté-là, on n'a pas eu beaucoup de soucis. Et ce qui nous a intéressé, au-delà du projet en lui-même, c'est justement cette collaboration entre des chercheurs de l'IRD, un média, pour aller chercher la parole des habitants, alors que nous, c'est les habitants, les citoyens qui nous intéressent dans ce qu'ils peuvent faire, eux, concrètement, au quotidien, pour l'environnement, y compris garder la mémoire. Et alors, le côté intergénérationnel, le fait que ce soit des jeunes qui aillent chercher la parole des anciens, ça nous paraissait particulièrement pédagogique et très porteur. La bonne surprise pour nous, c'est que quand on a reçu le projet, c'était un projet qui était bien écrit, c'était un projet qui techniquement nous semblait tenir la route, mais c'était un projet que nous, on avait financé en Nouvelle-Calédonie. Et en fait, deux ans après, on se rend compte que ce projet, il déborde largement le territoire, il a été sur d'autres continents, il a essaimé beaucoup, et ça, nous, on n'avait pas entreaperçu cette possibilité initialement, et ça fait partie des satisfactions qu'on a en tant que bailleur de fonds quand notre financement, qui était quand même pas très important, permet justement d'aller beaucoup plus loin que ce qui était initialement prévu.
Parce que Hip Hop aujourd'hui, c'est dans combien de pays, Max Ball ?
Une quarantaine. Mais je, pour rebondir sur ce que vient de dire Thierry, c'est que avec l'IRD, on était aussi sur la même longueur d'onde. Je pense que c'est important d'essayer de concevoir désormais des projets qui ne coûtent pas trop cher. Voilà, c'est-à-dire que le lien avec la réalité économique et tous les à côté qui vont avec, ça fragilise la durabilité des projets. Et donc, le fait que ce soit un projet participatif, comme le nom l'indique, petite zone participative, ça permet d'être moins dépendant de cette ressource qui est naturelle ou pas, ça dépend comment on voit les choses. Mais voilà,
l'argent.
L'argent. Et du coup, on reçoit désormais des capsules des cinq continents. Et ça, c'est une vraie satisfaction. Ça veut dire que ça répond à une vraie attente.
Alors, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez créé le premier concours hip-hop, premier concours gagné par vous, Émile Vitus Tosu. Bonjour.
Bonjour, Anne-Cécile.
Vous êtes venu du Togo exprès pour recevoir ce prix. C'est votre premier voyage à Paris. Votre film s'appelle « Nulle part où aller ». Il donne la parole à Gbe Moumou qui vit à Agbavi au bord de la plage au Togo. On écoute votre film. Bah oui, c'est la radio. Hein. On peut le voir sur YouTube, mais à la radio. On l'écoute et on en parle après.
Je m'appelle Bemoumou Tosu et je suis natif de Kossi Agbavi. La mer nous repousse depuis longtemps. Ce phénomène a commencé avec nos parents. Moi, je suis charpentier et je n'avais jamais imaginé vivre cette situation. Après chaque avancée de la mer, on faisait appel à moi pour démonter les toitures, jusqu'à ce que ça soit mon tour. Les deux tiers de ma propriété sont désormais dans la mer. Avant, nous pouvions jouer au ballon sur la plage. Et il y avait un marché ici. C'était le marché de Sandramé. Et avant d'atteindre la mer, il fallait traverser la grande route goudronnée. Maintenant, la mer est là, sous notre nez. Avec l'érosion côtière, plus aucune activité n'est possible. Aujourd'hui, on peut réellement constater la montée du niveau de la mer. Ceux qui vont en mer le confirment et voient bien les risques que nous courons. Et puis on l'entend aussi au bruit de l'impact des vagues sur la côte. On nous a promis que des digues seraient installées, mais rien n'a été fait. Nous avons appris par la radio que nous devions quitter la côte, car la mer risquait de nous effacer de la carte. Mais que faire ? Nous n'avons pas les moyens. Sinon, nous serions déjà partis. Nous avons espéré que l'État aménagerait un autre endroit pour nous installer, pour nous aider. Ceux qui ont les moyens, ils sont déjà partis. Il ne reste plus que nous, qui n'avons nulle part où aller. Les multiples constructions et reconstructions de quais sont à l'origine de l'avancée de la mer. Il est du devoir de l'État de nous aider en nous construisant des digues. Nos principales activités depuis plusieurs générations sont l'agriculture et la pêche. C'est notre seule source de revenus. Notre souhait est que l'on trouve une solution contre l'érosion.
Émile Vitus Tosu, nous venons d'écouter votre film « Nulle part où aller » avec lequel vous avez donc gagné le premier prix du premier concours hip-hop que vous êtes venu recevoir cette semaine à Paris. Alors comment avez-vous eu l'idée de faire ce film ?
Tout est parti du concours effectivement. J'ai réfléchi à qu'est-ce qu'il faut faire, quel sujet travailler, sur quelle thématique travailler.
Vous vous intéressiez aux problématiques environnementales avant le concours ?
Oui, mais pas vu de ce angle précis là. Moi, j'étais beaucoup plus, j'aimais beaucoup plus la nature, prendre des photos des arbres et tout ça. C'était beaucoup plus mon truc. Et donc, ce concours m'a permis de chercher, voilà, de fouiller, chercher un problème, et voilà, chercher à trouver pourquoi ce problème et comment est-ce que ces populations aux alentours vivent le problème.
Et vous avez découvert l'érosion côtière à cette occasion ou vous connaissiez le problème ?
Je connaissais le problème, même il y a des coins à Lomé où tu vas et tu vois clairement que voilà, la mer, elle avance. Mais le témoignage de ce monsieur que j'ai rencontré justement par hasard, parce que je cherchais un témoin, comment faire et tout, parce que moi dans mon village, s'il faille chercher un ancien dans mon village, il n'y aura pas question d'érosion, parce que c'est plutôt des goudrons.
Pourtant, il s'appelle Tosu aussi, mais ça n'a rien à voir avec votre famille.
Justement, c'est tout ce qui rend la chose assez magnifique. Il s'appelle Tosu, mais on ne s'est jamais vu, on ne s'était jamais connu. Donc ce jour, je me promenais sur la plage avec un ami à la recherche justement d'un sujet. Ben, je l'ai vu. Il est sorti de sa cabane, comme ça. Il était torse nu, justement, et avec un panier noir et tout. Je dis, ah. Et on s'est approché de lui. Et figurez-vous que juste deux, trois questions. Le témoignage qu'il nous a donné, avant même qu'on lui donne le micro, était plus fort. C'est-à-dire que tu sens en même temps que le monsieur, il vit la situation et il est fatigué d'en parler. Il faisait comprendre qu'il y a des gens qui venaient, il fait le témoignage et tout, mais il n'y a pas de solution.
Il ne se passe rien.
Voilà, il ne se passe rien. Mais les gens reviennent encore, il ne se passe jamais rien. Et déjà, ça crée une colère auprès de ces personnes. Lorsque nous venons maintenant pour poser le problème, il se dit, ben écoutez, vous savez quel problème, tout le temps, vous venez. Mais en même temps, on a vu de la colère et il a plutôt traduit cette colère par ce qu'il nous a dit. Voilà.
Et comment vous avez réagi quand vous avez su que vous aviez gagné le premier prix?
C'était le 22 mai.
Ah.
Parce que j'ai reçu le mail. Ben écoutez, c'était ouf. J'ai reçu le mail, je l'ai lu calmement. Ben, la joie était immense. Hein, et j'ai failli pleurer, mais je ne dis rien à personne. J'étais assez calme. Et puis bon, ben, avec le temps, ben, ça s'est fait savoir.
Vous êtes habitué à l'idée, puis on a fini par le savoir.
C'est
et
ça.
Là, vous êtes là, à Paris. Ça se passe bien cette semaine à Paris?
Bah oui, ça se passe bien avec Max et Gaël. Et c'est super.
C'est super. Ben, écoutez, on est ravis de vous rencontrer, en tout cas. Alors, le principe de hip-hop, on l'a dit, hein, c'est que ces témoignages soient mis en perspective par des scientifiques. Bonjour, Françoise Vimieux.
Bonjour, Anne-Cécile.
Alors, vous êtes climatologue au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Vous êtes directrice de recherche à l'IRD. Comment est-ce que vous réagissez aux témoignages recueillis par Émile Vitus-Tossou? Il y a beaucoup de choses dans ce témoignage.
Il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai été particulièrement touchée par ce vieux monsieur qui, en fait, décrit une situation qu'on connaît depuis des années et des décennies. Et j'ai été touchée par la sagesse, en fait, du témoignage et par sa simplicité aussi. Et aussi par le fait que ce monsieur exprime une certaine lassitude, en fait, d'expliquer aux gens qui passent que la mer monte et finalement, il n'y a rien qui est fait. Et c'est des choses que l'on connaît, hein, la montée du niveau des mers. La mer, elle a monté en moyenne de 20 cm depuis le début du XXe siècle. Il y a des projections pour le milieu et la fin du siècle qui sont des projections inquiétantes, qui vont de l'ordre de 40 cm en 2100, si on arrive à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, et puis qui vont jusqu'à 1 mètre, voire 1 mètre 10 à la fin du siècle, si on continue sur les trajectoires d'émissions sur lesquelles on est aujourd'hui.
Alors, de nombreux auditeurs nous écrivent pour nous parler de cette érosion de la côte ouest africaine. C'est vrai que c'est une réalité. Quand on se promène sur la côte, on voit des maisons dans l'eau, des cimetières dans l'eau, des hôtels qui font face à l'érosion, quelquefois qui se battent à coups de blocs de pierre, etc. Il y a des causes qui sont liées au dérèglement climatique et il y a des causes humaines aussi. Il faut faire la part des choses.
Alors, la montée du niveau des mers que l'on observe depuis des décennies, elle est essentiellement liée aux activités anthropique. Alors, il y a deux causes principales. D'abord, le fait que l'océan soit plus chaud, il occupe plus de place. L'eau chaude occupe plus de place que l'eau froide. Et puis, la deuxième cause, et c'est pour ça que la montée du niveau des mers s'est accélérée ces dernières décennies, c'est en fait la perte de masse, la fonte de la glace, des calottes qui sont posées sur de la roche. Donc, c'est le cas de la calotte au Groenland, en Antarctique, et puis des glaciers de haute montagne. Et depuis les années 1970, on observe vraiment une augmentation de la perte de masse. Et donc, ces deux causes provoquent en fait l'élévation du niveau des mers, qui est aujourd'hui de l'ordre de 3,6 mm par an et qui était au début du XXe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle de 1,5 mm par an.
Donc, ça a plus que doublé.
Et c'est quand même essentiellement le dérèglement climatique qui explique la montée du niveau des mers. Après, l'érosion, c'est un phénomène naturel. Il y a toujours eu de l'érosion sur les côtes à cause de la mer, mais le fait que le niveau de la mer soit plus haut, ça vient renforcer en fait cette observation naturelle qui est l'érosion.
Et puis il y a aussi les constructions le long des côtes, évidemment, notamment avec tous ces grands ports sur la côte ouest africaine qui jouent un rôle d'épi et qui perturbent justement cette érosion naturelle.
Alors il y a tout ce qu'on appelle en gros l'urbanisation qui vient perturber l'érosion naturelle et ça touche énormément de personnes. Hein. On a aujourd'hui à peu près 680 millions de personnes qui vivent dans ce qu'on appelle les zones côtières basses, donc à une altitude de moins de 10 mètres.
Et c'est à l'échelle du monde.
Ça, c'est à l'échelle du monde. Et on pense, avec l'évolution démographique, que ce chiffre va atteindre 1 milliard en 2050. Donc vraiment, c'est des préoccupations très globales et qui touchent, bien sûr, évidemment, le continent africain.
Et c'est un phénomène qui s'accélère.
C'est un phénomène qui s'accélère depuis une décennie environ, depuis les années 70.
Émile Vitus Tossou, vous saviez tout cela ?
Non. Du tout.
Voilà, ça sert à ça, hip-hop, Max Ball.
C'est un peu le but.
C'est exactement le but. Donc c'est ça, la magie de hip-hop. Restez avec nous, on continue de parler du programme qui se diffuse dans le monde entier, ce programme hip-hop. On en parle d'ici, du Café des Trois Arbres dans le 19e arrondissement de Paris. On continuera à en parler juste après une petite pause musicale.
مشتاق الكاف حلمي خياب كلامي خسر وعياب راسي مهموم عيني يخدعهم النوم وامول الباس راني مشتاق الكاف دنيا حنينة العيشة فيها بنينة أمان تبسمة بنادم يرجع رهينة وامول الباس راني مشتاق الكاف أسيد سباب
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI. Notre studio est installé au Café des Trois Arbres dans le 19e arrondissement de Paris à l'occasion de la remise du premier prix du premier concours de hip-hop, ce projet international porté par RFI Planète Radio et l'IRD et qui consiste à inciter des jeunes à capter en vidéo le témoignage des anciens sur l'évolution de leur environnement. Alors cette année, vous l'avez entendu, c'est Émile Vitus Tossou du Togo qui a remporté ce prix pour son film Nulle part où aller sur l'avancée de la mer au Togo. Mais il y avait plein d'autres thèmes qui ont été abordés Max Ball lors de ce concours où il y a eu, je crois, plus de 25 pays qui ont participé.
40.
40 pays, ouais, oui, donc c'est plus de 25.
Non, non, ben on a eu toutes les problématiques qu'on peut aborder à travers tous les médias. Je veux dire, la destruction des coraux, le réchauffement climatique. On a eu aussi beaucoup de trucs sur le plastique, les pollutions.
Les déchets,
donc le sable. Voilà. Et ce qui est important aussi, c'est que quelque part, grâce au soutien de l'IRD et du corps scientifique, on arrive aussi à faire un petit peu la part des choses que vous disiez tout à l'heure sur la causalité de la montée des eaux. Quand on a démarré le projet dans le Pacifique, où la problématique est juste gravissime, souvent les scientifiques nous disaient attention parce qu'il y a les mouvements des plaques tectoniques qui aussi génèrent. Alors je vois.
François. C'est tout à fait la même échelle de temps quand même par rapport au changement climatique qu'on voit depuis 150 ans. Le mouvement des plaques tectoniques, c'est sur des échelles de temps beaucoup plus longues.
Ah, merci, je ne savais pas. Donc ça m'avait été transmis comme ça. Mais enfin, tout ça pour dire que c'est vrai que la perception, on s'aperçoit à travers toutes les capsules qu'on reçoit dans le monde entier, c'est que le ressenti, la perception humaine est relativement la même. Quelle que soit la causalité, on se retrouve avec ce sentiment d'abandon et puis surtout de vraies perturbations du quotidien. Parce que moi, ce qui m'intéresse dans ce projet-là et pourquoi on l'a développé avec l'IRD, c'est aussi que la détérioration de la qualité de vie. Parce que quelque part, on peut parler de long terme, vous parliez tout à l'heure de la fin du siècle. Là, on parle de maintenant. Il y a des tombes qui sortent de l'eau. On voit dans la Fidji, quand on était les capsules qu'on a reçues du Pacifique. Donc là, on s'aperçoit, et je ne sais pas si dans les pays du G7, on a cette perception-là des conséquences actuelles au niveau du quotidien et de la qualité de vie des gens.
Alors, autre exemple, un autre film qui n'a pas gagné de prix, mais qui a participé et qui a retenu mon attention, il s'appelle « Des kilomètres pour les bêtes » et il parle de la diminution des ressources en eau au Niger. En 40 ans, les rendements des terres au Niger ont diminué de près de 30%. Le sol s'assèche et Soumana, qui est éleveur, doit marcher de plus en plus loin pour que ses bêtes puissent aller s'abreuver.
Je m'appelle Soumana Amadou. J'ai 44 ans. J'ai une femme et 4 enfants. La nature n'est plus la même et nous avons beaucoup de mal à nourrir nos animaux. Ici, nous sommes à Gurubanda, près de l'ancien cours d'eau. Mais comme vous pouvez le constater, nos troupeaux sont maigres à cause du manque d'eau et de nourriture. Ils n'ont plus d'herbe à brouter ni d'eau pour s'abreuver. Il y a quelques années, quand le temps était clément, notre activité était rentable. Le bétail et les cultures nous rapportaient. Mais aujourd'hui, nous sommes obligés de brader nos animaux au marché à cause de leur maigreur et des maladies. Même quand il pleut, nous n'en profitons pas parce que le cours d'eau est rempli de sable. Les herbes et les cultures ne poussent plus et nous sommes obligés d'acheter du foin au marché. Nos animaux sont tellement maigres que certains ont même perdu leurs cornes. Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour vivre ce changement de la nature et du climat? La nature d'avant et celle d'aujourd'hui ne sont même pas comparables. Les animaux souffrent. Nous avons besoin d'aide. Aidez-nous. Maintenant, nous devons mener nos animaux au fleuve Niger, à 7 km d'ici. Mais ils s'assèchent également.
Françoise Vimeux, je rappelle que vous êtes climatologue et directrice de recherche à l'IRD. Vous avez travaillé au Niger, justement. Comment est-ce que vous réagissez à ce témoignage?
Alors effectivement, j'ai travaillé avec mes collègues nigériens sur la compréhension en fait de processus atmosphériques qui sont liés au régime des pluies. Et en fait, ce que traduit ce monsieur, c'est la variabilité qu'on attend du régime des pluies avec le changement climatique. Le changement climatique, c'est pas uniquement la température qui augmente, c'est aussi tous les régimes de pluie qui changent. Alors ils changent en termes de répartition géographique, en termes de répartition temporelle sur l'année. En Afrique, on a des grandes questions de recherche sur comment la mousson va évoluer. Est-ce que la mousson va arriver plus tardivement, plus précocement? Est-ce qu'elle va être plus courte, plus longue? Est-ce qu'il va y avoir autant de pluie, moins de pluie, etc.? Et c'est des questions de recherche qui sont compliquées parce que là, on a vraiment un mix de la variabilité naturelle de la mousson qui varie à des échelles multidécennales avec la cause anthropique qui vient se mêler à cette variabilité. Et on a encore énormément à apprendre sur le fonctionnement de ces systèmes de mousson. Et c'est pour ça aussi qu'on a, je dirais pas des incertitudes, mais beaucoup plus de mal à décrire la manière dont vont évoluer les pluies, au Sahel en particulier.
Aussi parce qu'on manque de données sur le continent africain.
Alors, on manque d'observations, c'est sûr, mais on manque aussi de compréhension. On a vraiment des grosses questions sur, par exemple, comment fonctionnent les nuages d'orage pendant la mousson. Comment ces nuages vont évoluer dans un climat plus chaud? Est-ce qu'on va avoir autant de pluie qui va arriver au sol qu'avant? Et comment tout le système grande échelle de la mousson va évoluer?
Alors c'est un phénomène qui n'est pas que sahélien, hein, ce phénomène de sécheresse. Exemple avec un autre film hip-hop tourné en Haïti. Cellini décrit le cercle vicieux avec le dérèglement climatique ajouté aux méthodes de culture, à l'utilisation du charbon et la déforestation.
Tu vois, fiston ? Parmi les conséquences du changement climatique, on est surtout affecté par le dérèglement des saisons. Autrefois, il n'y avait pas autant de sécheresse. La pluie tombait régulièrement. Mais à cause du changement climatique, les saisons sont déréglées. Ces terres, ce sont des cultures de riz, de légumes, mais elles sont toutes en mauvaise santé à cause du soleil et de la sécheresse qui frappe. On est obligé de rester chez nous parce qu'il est impossible de travailler dans les champs. Tu vois, fiston, autrefois, au mois de janvier, février et mars, il pleuvait beaucoup. Mais maintenant, c'est catastrophique. Au lieu de la pluie, c'est la canicule. Il pleuvait aussi pendant la saison des cyclones de juin à novembre. Ces saisons sont déréglées par le changement climatique et c'est un vrai problème. Parce que nous n'avons pas de système d'irrigation. Et c'est pour ça qu'on cherche des techniciens qui pourraient nous aider à irriguer nos terres. Car c'est à cause du manque d'eau que nos productions sont si mauvaises. Certains sont obligés de miser sur la vente du charbon de bois. Et alors, ça accélère le déboisement. Et ceux qui pratiquent encore l'agriculture n'arrivent plus à nourrir leur famille. La monnaie ne circule pas et l'économie se meurt. Voilà comment les changements climatiques détruisent les paysans.
Alors après ce témoignage un peu catastrophique, Françoise Vimieux, on peut faire quand même un petit peu d'optimisme, puisque les hommes peuvent agir quand même, par exemple, dans leur travail du sol pour diminuer l'impact des dérèglements climatiques. Enfin, oui. Dans une certaine mesure, il faut toujours qu'il y ait de l'eau.
Oui, alors avant, ce que je dirais, c'est que la désertification dont il est question ici, c'est un vrai problème. Depuis la décennie 1961-1970, la population qui est touchée par les zones semi-arides, qui connaissent des désertifications intenses, a augmenté d'à peu près 200%. Et donc, il y a 500 millions de personnes qui sont aujourd'hui, qui vivent dans des zones semi-arides, qui sont touchées par la désertification grandissante.
Alors, ce que l'on appelle la désertification, ce n'est pas le désert qui avance, il faut être bien précis.
C'est pas le désert qui avance, la désertification, c'est le fait qu'on a de moins en moins d'eau sur un territoire et qu'on arrive à ce qu'on appelle des sécheresses. C'est tout simplement ça, c'est pas le sable qui avance.
La surface qui normalement peut être cultivée dans le sol.
Alors, ça, c'est la conséquence en fait. La conséquence, c'est que le sol devient de plus en plus sec et donc il est de plus en plus difficile de faire de l'agriculture sans irrigation. C'est pas l'image simpliste du sable qui avance.
Voilà. C'est ce qu'on entend dans le reportage quand il dit on ne peut plus cultiver.
Et c'est exactement ça, parce que la sécheresse fait que s'il n'y a pas d'irrigation, eh bien, il y a tout un tas de cultures qui étaient auparavant réalisées qui ne sont plus réalisables.
Et alors là-dessus, est-ce que l'homme peut agir à travers d'autres formes d'agriculture s'adapter?
Je crois que la note positive, c'est de dire qu'il y a certainement de la recherche et de l'innovation, de la technologie qui va venir certainement aider ces populations. Est-ce que cette recherche et cette innovation va être opérationnelle et mise en place sur ces territoires? C'est une autre question. Évidemment, on peut irriguer. Ça, c'est la première chose. Et d'ailleurs, il en est question.
Ça coûte cher d'irriguer.
Alors, c'est le problème. C'est-à-dire qu'on constate que les populations finalement les plus exposées, les plus vulnérables aux impacts du changement climatique, c'est aussi celles qui ont des fois le moins de moyens pour faire face à ce dérèglement climatique. Et ça, c'est un problème global. Et là, c'est plutôt une note pas très optimiste.
Et c'est toujours l'un de vos moteurs, Max Ball, justement, pour Hip Hop. On l'entendait tout à l'heure, ce que vous disiez, c'est donner la parole à ces gens-là. On l'entend bien là, à travers ces différents exemples, de façon très, très concrète, le vécu des conséquences du dérèglement climatique ou de la perte de biodiversité. Ce n'est pas juste de la théorie, ce n'est pas juste de la science, c'est du quotidien pour les gens.
C'est surtout que ça a un impact. Moi, ce qui m'a choqué lors de mes travaux avec Planète Radio depuis plus de 25 ans maintenant, c'est qu'à travers les radios qu'on montait et qu'on monte encore avec Planète Radio, on a la possibilité de recueillir comme ça les témoignages, et de plus en plus de témoignages sont liés aux conséquences des changements globaux, quoi. Et de fait, avec la réalité, c'est-à-dire la détérioration de la qualité de vie. Et bien souvent, on est à milieu de penser aux conséquences concrètes. C'est-à-dire que, par exemple, on travaille beaucoup avec les pygmées en Afrique centrale, qui me racontait, alors je vais sûrement dire une bêtise, mais c'est ce qu'il m'a dit, mais alors je ne sais pas comment ça peut être analysé.
C'est pas grave, on va faire Hip Hop en direct, c'est-à-dire votre témoignage mis en perspective.
Donc je pose une question, donc le niveau de la mer, le niveau de l'eau baisse dans le fleuve, et les filets sont de la même taille, et du coup les filets tapent sur l'eau parce qu'il y a moins d'eau, ils ne sont pas recouverts par l'eau, et du coup ça tape et les poissons fuient. Donc on ne peut pas retailler tous les filets, donc voilà, c'est des réalités au quotidien. Et le gars dit, le vieux pygmée me disait, là tu vois, j'ai moitié moins de poissons qu'avant parce que le filet dépasse. Alors ça paraît peut-être ridicule, mais changer la taille du filet quand on est au fin fond de l'Afrique centrale, c'est tout un monde. Et c'est ça, moi, qui m'intéressait, c'est de faire remonter ces thématiques-là et peut-être interroger à la fois le corps scientifique, mais aussi politique et économique sur... Mais quelque part, est-ce qu'on est conscient des conséquences auxquelles les populations sont confrontées? Ça peut être des petites choses comme ça et l'impact sur la qualité de vie.
Je trouve que là ce qui est décrit, c'est vraiment l'impact à une échelle très, très locale. Et ça, on n'est pas conscient. Donc moi, je trouve que monsieur et madame tout le monde sont de plus en plus sensibilisés au problème du dérèglement climatique. Par contre, les conséquences à l'échelle locale dont vous parlez pour ce pêcheur, ça, c'est des choses totalement ignorées. Et ce que vous faites, ça permet vraiment de montrer que même aujourd'hui, avec seulement 1 degré de plus... Depuis l'ère pré-industrielle, on a déjà de vrais impacts qui viennent en fait dérégler la vie quotidienne et même l'économie en fait des territoires dont vous parlez.
Alors, autre sujet abordé cette année dans ce concours Hip-Hop, la gestion des forêts. Selon l'ONU, près de 1,5 million de kilomètres de forêts ont disparu en 20 ans. Mais pourquoi déboise-t-on? Eh bien, exemple concret avec Ndouba et son exploitation à Abi, en Côte d'Ivoire.
Je m'appelle Ndouba Assomou. Je suis planteur, né en 72. Je suis planteur à Abi. Le climatique, c'est vraiment quelque chose de visible. Parce qu'aujourd'hui, nous le constatons, nous le sentons à travers même la forêt. Avant, on n'avait pas besoin de mettre des intrants pour que le palmier nous donne la production qu'on veut. Nous avons droit à deux périodes de pointe dans l'année. Aujourd'hui, nous avons une seule pointe. Mais quelle pointe? Nous pouvons vivre ça ensemble. Quand nous regardons aujourd'hui nos revenus de plantation, ce n'est rien. Ce n'est rien. Il n'y a plus d'armentan, il n'y a plus de la mousson. Tout est confondu et la pluie tombe. Aujourd'hui, ça crée des maladies. Vous voyez, quand vous allez constater dans nos plantations, et l'abondance de pluie qui tombe a fait que nos plants-là sont tous malades. Quand tu arrives, les feuilles jaunissent, on ne sait que faire. Et nous ne pouvons même plus nous nourrir. Et ça fait qu'aujourd'hui, à cause de cela, on est obligé de déboiser pour augmenter nos superficies. Alors aujourd'hui, on n'a plus d'espace pour cultiver même le manioc carré pour pouvoir faire du manioc ou de la banane plantain qui est notre nourriture quotidienne. On ne peut plus vivre de sa plantation. On demande l'aide à l'État pour venir nous aider dans ce sens-là. Que l'État trouve des moyens pour remédier à cette situation. Parce que tant que cette situation perdure, nous allons tout droit à la catastrophe, c'est-à-dire la famine. Parce que nous n'arriverons plus à nous nourrir. La nature nous a fait fausse route. La nature nous a abandonnés. La nature a changé de forme. On ne se retrouve même plus. On ne sait pas à quoi se vouer.
La nature nous a abandonnés, Françoise Vimeux. Ça, c'est un ressenti qui, évidemment, mérite explication. Qu'est-ce qui se passe là dans cette forêt en Côte d'Ivoire?
Alors, je ne sais pas précisément ce qui se passe sur cette forêt en Côte d'Ivoire, mais ça me fait tout de suite réagir en disant que il faut aussi des fois avoir un... Enfin, il y a une grande différence entre le ressenti et la réalité. Je ne suis pas sûre que ce qui se passe sur ce territoire, ça soit lié au dérèglement climatique. C'est peut-être un cycle naturel de la forêt, un cycle naturel de cette espèce d'arbre que je ne connais pas. Alors, j'imagine quand même que ce sont des cultures où il y a quand même une transmission, une certaine mémoire, et que lorsque cette personne dit « on n'a pas vu ça depuis très longtemps », je le crois. Mais rien ne dit que ce n'est pas un cycle naturel. Après, ces histoires de nature qui se venge ou de nature qui nous abandonne, c'est très imagé. Et en fait, c'est pas vraiment la nature, en fait. C'est la conséquence des activités humaines.
Il y a toujours des causes.
Il y a toujours des causes derrière. Elles peuvent être naturelles, elles peuvent être anthropiques. Et puis, cette histoire de nature et de planète, en fait, la planète, la nature, c'est des systèmes qui cherchent l'équilibre. Et quand il y a une perturbation, ils vont essayer de se rééquilibrer. Donc, il n'y a pas d'histoire de vengeance ou d'abandon, mais voilà, moi je vois ça de manière peut-être très cartésienne et très pragmatique.
Et l'important à rappeler quand même, c'est que la forêt, c'est un enjeu essentiel, en tout cas par rapport à ces dérèglements climatiques.
Alors la forêt, c'est un enjeu essentiel parce que les forêts, ce sont des puits de carbone. Alors pourquoi? Très simplement, un arbre, il a un cycle de respiration et de photosynthèse. Lorsqu'il fait la photosynthèse, il absorbe 2 molécules de dioxyde de carbone. Quand il respire, il en rejette une, donc en net, il a absorbé une molécule. Si cette forêt grandit, eh bien, elle va être très efficace comme puits de carbone. Si vous coupez un arbre, eh bien, de facto, le puits n'existe plus. Si cet arbre est brûlé, comme on voit en Australie aujourd'hui, tout le carbone qui a été stocké repart directement dans l'atmosphère. Donc, en fait, il y a un double effet, c'est que d'une part, vous n'avez plus la forêt pour stocker le carbone, et puis d'autre part, ça repart dans l'atmosphère, vous créez des émissions de gaz à effet de serre.
Donc là, on comprend bien qu'il y a un enjeu extrêmement important. On en parle souvent dans cette émission. Max Ball, on pourrait diffuser comme ça plein d'autres films parce qu'ils sont tous extrêmement intéressants. Il y a des sujets dont on n'a pas parlé. Il y a la problématique des déchets, la problématique des pollutions.
L'accès
et on entend
à l'eau douce aussi.
L'accès à l'eau potable. Ouais. Et on entend bien, en tout cas, à travers tous ces témoignages, que la préservation de l'environnement dans beaucoup de pays, c'est vraiment la raison principale pour préserver son quotidien, quoi.
Parce que c'est la préservation de la vie, tout simplement, et que nous, on a un prisme ici, peut-être très occidental, parce qu'on est entre parenthèses, peut-être un petit peu plus préservées que ces populations-là, mais
déconnectées des ressources.
Voilà,
naturelles
déconnectées
pour vivre
aussi
au quotidien,
et enfin, des ressources
on s'en
totalement.
Rend pas compte, en tout cas.
Non, non, totalement déconnectées des ressources naturelles, mais aussi déconnectées des impacts, parce que en fait, au travers des projets comme Hip-Hop, mais aussi à travers des médias, on a une vision assez superficielle, hein, parce que c'est extrêmement compliqué d'avoir des explications scientifiques, d'avoir un sentiment relativement clair et pragmatique sur les causalités. Heureusement que le corps scientifique nous y aide, mais moi, ça me semblait extrêmement important que même si dans la présentation, dans le ton, ça peut paraître parfois un petit peu jeté comme ça sur la table, c'est aussi cette volonté d'intégrer une nouvelle composante. On a été invité au GIEC dernièrement pour présenter, donc en présence de Nicolas Hulot et de beaucoup, alors c'était là il y a deux ans, avec Laurent Fabius, donc des ministres d'État et beaucoup de représentants. Et on a diffusé des capsules hip-hop entre les grandes présentations politiques et économiques. Et il y a eu des énormes silences qui étaient très parlants pour moi, parce que les gens se disaient « Ouh, c'est vrai, là on parle de chiffres, on parle de mais... »
Mais en fait, il y a des vrais gens derrière.
Il y a des vrais gens derrière et il y a des vrais dégâts. Il y a des vrais dégâts déjà vécus. Et c'est un peu ça, je crois, ce que vous disiez il y a 5 minutes, c'est-à-dire la corrélation entre la dégradation environnementale et la dégradation de la vie, c'est pas encore tout à fait assimilé par tout le monde.
On arrive à la fin de cette émission. Émile Vitus Tosson, on va vous souhaiter un beau séjour à Paris. Vous
Merci.
Allez visiter un peu ?
Oui. Ce matin, on était à la Cité des Sciences. On ouais. a pu voir pas mal de choses là-bas, assez intéressantes.
Et puis, vous allez aussi visiter les studios de RFI. Enfin, c'est une semaine de découverte.
C'est ça, ça promet.
Ça promet. Et bien, bonne semaine à vous. Profitez-en bien.
Merci.
Merci à tous d'avoir participé à cette émission, enregistrée donc au Café des Trois Arbres dans le 19e arrondissement de Paris. Max Ball, vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, une dernière chose, c'est que la nouvelle édition du concours Hip-Hop a été lancée le 15 décembre dernier jusqu'au 15 mars 2020. Voilà, donc j'invite tous les jeunes hip-hoppeurs du monde entier à adresser leur capsule parce que c'est important. Voilà, c'est un projet participatif, on est ensemble. Et donc cette année encore, c'est Grand Corps Malade qui sera le président du jury, qui accueille beaucoup de monde d'ailleurs, y compris d'ailleurs des gens du cinéma, des gens d'un peu partout. Tout le monde s'intéresse à cet aspect humain et c'est très bien. Merci à tous.
Merci à vous d'avoir participé à cette émission enregistrée donc au Café des Trois Arbres dans le 19e arrondissement à Paris.
When I think of all the good times that I've wasted having good times. When I think of all the good time that's been wasted having good times. When I was drinking I should have been thinking. When I was fighting I could have done the right thing. All of that boozing I was really losing. Good times. When I think of all the good time that's been wasted having good times. When I think of all the good time that's been wasted having good times. All of my life, I remember her crying. My useless talking, I could have been walking. Instead of complaining, I could have been gaining good times.
C'est pas du vent.
On a tous un grand cheminement à faire dans nos vies et on est en train d'inventer les uns et les autres le monde de demain.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Il n'y a rien de plus beau que d'aider l'humanité dans sa progression. Ça donne sens à notre vie, tout ça.
Face à la dégradation de notre environnement, il faut stimuler l'innovation et les changements de comportement. Et c'est l'objectif du 3e concours que vous lancez avec votre fondation. Éric Philippon, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous présenter tout d'abord votre fondation Famae que vous avez créée il y a 3 ans maintenant ? On vous reçoit tous les ans, c'est la 3e fois que vous venez dans ce studio.
Exactement, merci de nous faire confiance encore une fois. 3 ans, Famae, c'est une fondation familiale et l'idée c'est de offrir de l'argent à des associations ou des PME ou des startups dans un domaine, l'innovation au service de l'environnement. On a commencé par un concours sur les déchets, on a suivi par un concours sur l'eau, et cette année, on a décidé de s'attaquer à un sujet qui touche une nouvelle fois tout le monde, qui est l'alimentation. Donc on leur donne à chaque fois un petit nom à nos concours. Là, cette année, c'est Food for Good.
L'alimentation pour le bien de tous.
L'alimentation pour le bien, le bien-être par l'alimentation. Mmh. Et donc ça couvre vraiment toutes les facettes de l'alimentation.
Alors on va revenir sur le concours de cette année dans un instant, mais pour qu'on comprenne bien l'ampleur de votre concours quand même, vous l'avez donc lancé il y a 2 ans, vous le disiez, c'était le déchet le premier thème, l'eau l'année dernière, et ces deux concours avaient déjà rencontré un vif succès.
Tout à fait, on a réussi à susciter ou identifier beaucoup de candidatures, on a eu environ 4000 candidats en 2 ans. La première année, plutôt 1500, la deuxième année, 2500, issus vraiment de tous les pays. J'ai l'habitude de dire du Groenland au Vanuatu, littéralement, 120 pays, 70 universités, grandes universités mondiales représentées, de McGill à l'école polytechnique, de l'EPFL à Harvard. Enfin, on a eu vraiment un très très grand retour, les candidats issus du monde entier, des associations, des gens plus PME, etc. Beaucoup de candidats africains, notamment. La première année, on commençait, mais c'est la deuxième année, on a eu beaucoup de candidats africains dans l'eau. Et d'ailleurs, on a eu un lauréat du Niger. Donc, on a vraiment réussi à balayer un peu tous les pays, tout type de projets. On a aussi été aidés par un joli jury, des gens qui nous ont fait confiance, des grandes fondations, mais aussi un petit peu des ambassadeurs comme Thomas Pesquet, Cédric Villani, Bertrand Piccard de Solar Impulse. Donc, des gens qui nous ont donné un petit peu leur confiance. Certains qui sont venus dans le jury. Cette année, on a le président de l'INRA, par exemple, qui vient dans le jury.
L'Institut National de Recherche Agronomique.
Exactement. On a aussi des grandes fondations.
Et puis, évidemment, ce qui donne une grande visibilité à votre concours et ce qui le rend un peu unique, c'est quand même la dotation. Je me souviens que quand on avait fait la première fois l'émission il y a 2 ans, on avait des auditeurs qui nous avaient écrit « c'est vraiment vrai » puisque c'était une dotation d'1 million d'euros. Et là, vous avez dit l'année dernière « 1 million, c'est pas assez, on passe à 2 millions d'euros de dotation ». Et vous réitérez cette dotation cette année, une dotation que les lauréats se partagent entre eux.
Exactement. Ça faisait partie de l'idée initiale, c'est mettre un petit peu d'argent quand même sur la table. 1 million d'euros, vous l'avez dit, pour la première année. Donc on a eu plusieurs lauréats. En gros, il y avait 3 lauréats qui s'étaient partagés chacun un prix de 300 000 euros, ce qui est beaucoup. Et puis des prix plus petits. L'année d'après, sur l'eau, on est passé à 2 millions d'euros. Alors, on a commencé à avoir aussi des sponsors qui sont venus nous aider. Et cette année, on continue sur 2 millions d'euros qui vont se partager probablement entre 5 à 10 lauréats. Et il y aura sans doute des prix, comme l'année dernière, de 500 000 euros. Donc, nous, l'idée, c'est quand on croit à un projet, on va l'accompagner, on va passer du temps, ce qui est au moins aussi important que l'argent. Mais il faut mettre son argent. Si on y croit, on met des gros tickets, parce que saupoudré, après, on n'aura pas la même capacité à suivre les projets. Et donc, c'est ce qu'on s'est dit aussi avec le jury chaque année, c'est de dire, OK, si on croit à des choses, on trouve que c'est bien, c'est intéressant, c'est important, ils ont de l'impact, c'est faisable. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'impact, le côté innovant et le fait que ce soit faisable. Et l'impact, ça peut être, par exemple, des mètres cubes d'eau évités. Sur l'alimentation, ça peut être d'un meilleur rendement, par exemple, d'un champ, etc. Le fait d'utiliser beaucoup moins de fertilisants chimiques, etc. Donc, on essaie vraiment à chaque fois de se dire, waouh, ce truc, il y a le waouh effect. On aime bien dire le waouh effect.
Alors, parlez-nous du waouh effect du lauréat du Niger de l'année dernière.
Alors, là, c'était un projet qui n'est pas du tout tech, au sens où, il y a un petit peu, mais là, c'était un projet qui combinait 2 choses. Premièrement, c'était une ONG locale qui creuse des puits et l'eau est mise à disposition de la population locale. Donc, on est entre le Niger et le Mali, dans l'Azawak. Ces puits sont près des écoles, ce qui permet aux petites filles qui sont en général, malheureusement, on envoie les enfants, mais en général, les petites filles aller chercher l'eau. Donc, quand elles vont chercher l'eau, elles peuvent aller assister à un cours. Donc, c'est ce que fait cette ONG qui s'appelle Amaniman. Donc, elle creuse des puits et elle les opère. Très bien. Là, c'est un puits solaire. Donc déjà, ça, c'est un intérêt pour nous. On cherche un impact environnemental. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a été combiné avec un film. C'est-à-dire qu'il y a un film qui est produit par Bonne Pioche, qui sont les gens qui ont fait La Marche de l'Empereur.
C'est
des gens
qui savent. Jacquet.
Voilà, exactement. Donc, c'est des gens très bien. Et ils font une fiction, l'histoire d'une petite fille dans ce village. Et ce film va vraiment sortir en salle. C'est-à-dire que ce n'est pas une vision misérabiliste, etc. C'est un documentaire extraordinaire. Alors, film ou documentaire, je ne sais pas très bien quelle est la limite. Il est réalisé par une femme, Aïssa Maïga. Et l'ONG du Niger est dirigée aussi par une femme. Et donc, c'est un projet qui est doublement ou triplement intéressant parce qu'il a de l'impact, mais c'est 2 femmes. Et il combine l'Europe et un pays africain. Donc voilà, c'est un des lauréats qui a reçu un prix de 350 000 euros.
Alors parlons de cette année, parce que moi je suis auditeur, je vous écoute, je dis waouh, j'ai envie de participer, c'est stimulant. Alors cette année, vous le disiez, le concours est baptisé Food for Good, 2 millions d'euros, donc la question alimentaire du champ jusqu'à la fourchette. Alors qui peut participer?
Alors une nouvelle fois, c'est ouvert à tout le monde, vous n'avez pas besoin d'avoir déjà une structure créée, que ce soit une association, une ONG ou une société, n'importe qui peut candidater. Donc les prix, on aura plusieurs prix, certains seront remis par certains de nos sponsors, donc ça veut dire qu'il y aura des sujets un petit peu plus spécifiques. Là par exemple, on aura des prix, un prix spécial Afrique, on aura des prix spécifiques pour des associations, ce qu'avant on n'avait pas forcément. Donc tout le monde peut candidater, vous avez jusqu'au 15 février, c'est très simple, c'est en ligne, c'est famae.earth. L'idée c'est qu'on a rendu les choses le plus fluide possible pour que les gens puissent déposer leur candidature de manière très très simple.
Et ça a été lancé en novembre et déjà vous avez beaucoup de candidatures.
Exactement, ça a été lancé fin novembre, on a déjà près de 1500 candidats, un peu moins de 1500 candidats, c'est jusqu'au 15 février et on serait ravis d'avoir le plus possible de candidats. Et je voudrais rappeler une très jolie histoire qui est arrivée grâce à RFI la première année. Nous avons eu un Italien qui écoutait votre émission. Et qui nous a appelé en disant, le concours était sur les déchets, en disant j'ai vu quelque chose d'extraordinaire en Italie. On a dit bah très bien, et il nous a donné le nom d'une personne mais qui était dans une prison en Italie pour un délit mineur et qui avait construit une machine qui recyclait des déchets dans la prison. Et donc on a pris contact avec ce prisonnier, un des membres de l'équipe par l'italien, et on lui a dit bah vous savez il y a ce concours qui existe. Et il s'est inscrit dans le concours, il a fait partie du top 50 des 50 derniers sélectionnés et j'ai trouvé cette histoire très jolie. Voilà, donc je voulais la rappeler à tous les auditeurs. Vous pouvez candidater, c'est ouvert à tout le monde, c'est jusqu'au 15 février.
Merci beaucoup Éric Philippon, et vous viendrez nous annoncer les gagnants?
Alors,
c'est quand la cérémonie?
Alors la cérémonie est lors de Vivatech, c'est début juin cette année. Alors nous on dit lauréat, parce que quand on dit gagnant, ça veut dire que les autres
ont perdu.
Or nous on pense que ce qui compte, c'est vraiment que tout le monde fasse le maximum d'efforts pour sauver le monde, donc il n'y a pas de gagnant, il y a des lauréats et les autres, on les remercie d'abord. Le premier geste qu'on fait, c'est qu'on les remercie d'avoir candidaté.
Famae.earth.
Famae.earth, exactement.
Merci beaucoup.
Merci.
Faites mon joli bouquet, mon bon monsieur. La toute jolie couleur, c'est vive. Il transpire la rosée, gentille madame. Voilà qu'il y a du grand matin brûlé. Aide-moi un poste panier. À vous-même pas choisir. Ma crise aime des années. Après moi va partir. Pour m'y remonte brûlé. Pour qu'on en a plein de frères. La reine des petits bébés. Achète madame, il vendra pas cher. Marie des blancs lettrés, mon bon monsieur. Pour sûr que lui va ranger bien votre salon. Ou bien prends à aller, gentille madame. Sera un petit bouquet de joie dans votre maison. Panier si la tête est méchantée, ah c'est très bon marché. Pas besoin de prendre à nous pour piquer de clé.
Merci à François Porcheron pour la réalisation et à vous pour votre fidélité. Il y a une vie après l'émission. Vous pouvez retrouver nos invités sur la page Facebook de l'émission et interagir avec nous. Donc n'hésitez pas, nous serons ravis de vous lire. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.
Ce samedi,